Philippe à Saint-Jodard le 4 février 1988.
Disais hier en terminant qu'il fallait bien comprendre que les sensibles propres, ces qualités tout à fait premières dans l'ordre génétique, celles qui nous marquent en premier lieu, et que nous portons par nos diverses sensations. C'est le premier moment de notre connaissance, connaissance sensible. Nous voyons tout de suite la diversité de ces diverses sensations, la diversité de ses sensibles propres, qui spécifie ses diverses sensations. Ces divers sensibles propres impliquent donc à la fois une diversité irréductible et une certaine unité. Ils sont tous des sensibles propres. Et chacun a son caractère unique. On est donc en présence de cette diversité, de cette unité. Et je crois que c'est cela qui caractérise fondamentalement, j'ai dit bien fondamentalement d'une façon première, dans l'ordre génétique, c'est ça qui caractérise le problème de l'analogie. L'analogie est née quand on a constaté à l'intérieur de notre connaissance une unité au-delà de la diversité, une unité dans la diversité. Et par le fait même qu'il y a unité et diversité, il y a un rapport. Et l'analogie exprime ce rapport. L'analogia, c'est un rapport, c'est une proportion. C'est la connaissance qui, de fait, ne saisit pas intuitivement et d'une manière exhaustive la réalité dans son unité, mais qui la saisit dans sa relation, dans son rapport. C'est pour ça que l'analogie exprime à la fois la qualité de l'intelligence et sa faiblesse. Si l'intelligence était exhaustive et intuitive, l'intelligence n'aurait pas besoin de l'analogie. L'analogie n'est pas une perfection, hein. C'est de fait, on constate que notre intelligence, étant donné sa fragilité, elle est dépendante des sensations. Et elle est toujours dépendante des sensations, jusqu'au bout. Même lorsque elle affirmera l'existence d'un être premier. Elle est dépendante des sensations et cependant, elle dépasse ses sensations. Elle saisit quelque chose de plus. Puisque notre intelligence est présente dans nos sensations. Vous n'avez jamais la saisie d'une sensation pure. Vous pouvez essayer, quand vous prenez le bol de café ou de lait le matin, saisir la chaleur à l'état pur. Et c'est la chaleur du lait qui n'est pas celle du café. Alors, les jours pairs, le lait, les jours impairs, le café. Et vous apercevez à ce moment-là que ce n'est pas la même chaleur. C'est vrai, la chaleur est liée à telle ou telle réalité. Et si, je ne sais pas, vous touchez la casserole brûlante, vous voyez que ce n'est pas le même, non plus la même chaleur. La chaleur du lait est agréable, tandis que l'autre, elle est très désagréable. Vous vous retirez tout de suite. Voyez donc qu'il y a des degrés dans la chaleur. Il y a des modalités. Même à l'intérieur de chacun des sensibles propres, il y a la diversité des cinq, et à l'intérieur de chacun, de chacune des sensations, et donc de ces sensibles propres, il y a encore des degrés, il y a encore une diversité, et pourtant, il y a une unité, c'est toujours la chaleur. N'allez pas, en touchant la casserole, dire... Puisque ce n'est pas le même chaud que le lait ou que le café, c'est donc froid. Mais non, c'est chaud. Voyez, commencez à saisir qu'à l'intérieur même de vos sensations, qui saisissent les sensibles propres, il y a du plus et du moins. C'est le propre de la qualité. Il y a une diversité et il y a une unité. C'est le propre de la qualité. Vous voyez donc que votre connaissance la plus faible, mais en même temps très qualitative, implique cette diversité, cette unité. Et vous direz donc, elle est analogique. C'est le point de départ. Tandis que les sensibles communs sont saisis par divergence. Ils n'ont donc pas ce même caractère d'irréductibilité. Et par le fait même, ce qu'il y a de commun en eux atteint même ce qui spécifie, ce qui détermine la connaissance. Ce qui fait que la diversité est moins grande. Et donc, c'est moins analogique. C'est encore analogique, mais c'est moins analogique. La diversité est moins forte. Et l'unité est plus commune. Alors, vous direz que l'aspect générique commence à l'emporter sur l'aspect analogique. Et vous commencerez à comprendre que nos connaissances ont toujours deux grandes modalités, dès le point de départ, un aspect générique et un aspect analogique. L'aspect générique, on s'en aperçoit avec les sensibles communs. Tout de suite. Et l'aspect analogique avec les sensibles propres. C'est pour ça que c'est si important de regarder le caractère différent des sensibles propres et des sensibles communs, puisque vous avez là tout de suite deux types de connaissances. Et il est bon de le saisir là, au point de départ, dans vos propres expériences. Puis au terme, vous saisissez l'analogie à partir de la saisie des principes. Vous voyez toujours l'ordre de nature et l'ordre génétique. Et on ne doit surtout pas les séparer. Quand il s'agit de l'analogie, encore moins. Puisque c'est justement le propre de l'analogie de pouvoir avoir ces deux ordres de connaissances. Si vous n'aviez qu'une connaissance univoque, vous n'auriez qu'un seul ordre, l'ordre génétique. Et vous ramènerez toujours tout au genre. C'est ce que font certaines mentalités. C'est très curieux de voir la manière dont les gens raisonnent. Certaines personnes ramènent toujours tout au genre, à l'aspect générique. Alors le genre se prend du côté de la matière. C'est pour ça que la connaissance générique est liée à la matière, et donc liée à la quantité. La connaissance générique est quantitative, ça c'est sûr. Et alors pour bien comprendre la différence entre cette connaissance générique et cette connaissance spécifique, c'est de voir que le genre se divise de l'extérieur, alors que la qualité se divise de l'intérieur. Et alors là, vous commencez à vous approcher un tout petit peu du caractère tout à fait propre de l'analogie. C'est que l'analogie, étant donné son caractère qualitatif, donc qui saisit des indivisibles, l'analogie possède par elle-même et en elle-même son principe de division. Ou elle le constate. Tandis qu'au contraire, la connaissance générique ne possède pas par elle-même son principe de division. Le genre animal se divise par raisonnable et irraisonnable. Le genre animal se divise par bipède et quadrupède. C'est extrinsèque à l'animal. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de la connaissance analogique, c'est à l'intérieur des sensibles propres que vous voyez la diversité des sensibles propres. Là, c'est quelques points qui doivent vous aider à comprendre ce que représente cette connaissance analogique. Et alors, au sommet, c'est-à-dire dans l'ordre de nature, vous voyez que l'analogie se repose en définitive sur la division de l'être. L'être se divise en substance et accident. Et ce n'est pas une division extrinsèque à l'être. L'être se divise en acte et en puissance. Et ce n'est pas une division extrinsèque à l'être. L'être se divise en un et multiple. Cette division se fait grâce à la saisie des principes. La saisie des principes va me permettre de comprendre comment l'être se divise et comment l'être est analogique. Tandis que la saisie des sensibles propres ne me fait pas comprendre directement le point de vue de l'analogie de l'être. Il fait comprendre que déjà, dès ma connaissance sensible, il y a diversité et unité. Dès ma connaissance sensible, je suis donc tout de suite dans des rapports et des relations. Ajoutons que pour nous, le signe de la connaissance analogique nous est donné dans l'attribution. Et donc, dans le langage, alors c'est peut-être par là qu'on doit commencer, c'est le signe. Vous avez des attributions dans le langage qui sont univoques, qui sont analogiques et qui sont équivoques. Toujours se rappeler ça. Et ça, c'est très facile à constater. Il suffit de réfléchir un instant sur le langage. Vous dites, par exemple, le chat est un animal. Le chien est un animal. L'homme est un animal. Animal est attribué univoquement à chien, chat, homme. C'est toujours la même signification que nous retrouvons dans ces diverses attributions. Tandis que si je dis le cheval est bon, l'homme est bon, cette petite chatte, elle est bonne, je vois que l'attribution bon est attribuée diversement à chacun. Et je dirais attribution analogique. Et en troisième lieu, si maintenant je dis, par exemple, cette fenêtre est œil de bœuf, et je vois dans mon assiette un œil de bœuf, je dis c'est un œil de bœuf. Œil de bœuf est attribué équivoquement à la fenêtre. Et au véritable œil de bœuf. Ce sont des attributions équivoques, totalement différentes. Quand je dis totalement différentes, il y a toujours un petit quelque chose de commun. Pourquoi on a dit que cette fenêtre était œil de bœuf? Cherchez la première fois qu'on l'a dit. C'était un poète qui avait vu un œil de bœuf avant, qui en venait à dire, tiens, ça me rappelle un œil de bœuf. Oui, ça me rappelle un œil de bœuf. Donc il y a un petit quelque chose dans la figura, dans la propriété. On est très proche, vous voyez, de l'analogie métaphorique avec les équivoques. Et quand on a perdu complètement le sens de l'analogie métaphorique qui fondait ces attributions, on est dans la pure équivocité. Très curieuse. Presque toujours, je crois, on trouverait un fondement d'une analogie métaphorique. Là, vous voyez comment l'attribution vous oblige de reconnaître qu'il y a des attributions univoques, analogiques, équivoques. Ça, c'est la bonne grammaire intelligente. Que vous réfléchissez sur l'attribution.
Il n'y a que 5 mots de l'analogie, les 5 fondamentaux, bête.
Les deux extrêmes. Non, parce que le bon, tous les transcendentaux sont analogiques.
Oui, mais il n'y a que ces 5 mots.
Les 5 transcendentaux. Non, puisque la perfection peut être une notion analogique. Toutes les notions parfaites sont analogiques. Vous voyez, vous pouvez les attribuer à Dieu. Donc c'est analogique. Vous voyez, vous dites que Dieu est parfait. Or la perfection n'est pas un des transcendentaux. Vous voyez, vous attribuez la simplicité à Dieu. Et vous pouvez dire, ah, comme ce petit enfant est simple. Comme, je ne sais pas... simplicité que vous voyez dans... Oui, ce dessin est d'une admirable simplicité. Matisse, à la fin de sa vie, dessiné dans une admirable simplicité. Le mot simple est analogique. Perfection aussi. Il y a toute une série de noms qui, en eux-mêmes, n'impliquent aucune imperfection. Alors, implique une analogie, toute une gamme, oui, toute une diversité et en même temps l'unité. Tandis que lorsque vous êtes en présence d'une notion univoque, c'est-à-dire générique, elle est univoque. Or, le genre se prend du côté de la matière, et donc toutes ces notions impliquent une imperfection. Et impliquent toujours une imperfection. Une imperfection radicale et fondamentale. Animal, c'est imparfait. Vous n'attribuez pas animal à Dieu. Tandis que vous l'attribuez à l'homme en tant qu'il y a quelque chose dans l'homme qui est un animal. Quand un homme se conduit mal, vous dites espèce d'animal. Hein? Et vous dites exprès espèce d'animal. Ce qui est illogique, mais qui est très fort au point de vue injure. Oui, la logique se sert de ça. Elle sert à montrer un contraste espèce-animal. L'animal est genre, et l'espèce n'est pas un genre. Et vous dites espèce-animal. Vous faites à ce moment-là du genre un absolu. Et quand vous dites à un homme espèce d'animal, vous voyez, vous montrez que tout le genre animal se trouve réalisé subitement en lui. Donc il est cochon, il est tout ce que vous voulez. Ordinairement, c'est plutôt de ce côté-là que ça s'incline. Parce que ordinairement, c'est justement ce point de vue. Vous ne direz pas espèce, parce que quelqu'un a l'air d'être comme un aigle. Dans son regard extraordinairement profond, vous dites que Saint-Jean est un aigle. C'est l'aigle de la contemplation. Vous ne direz pas parce qu'il est un aigle, il est un animal. Parce qu'il est un aigle, espèce d'animal. Pas du tout. Vous voyez, vous inclinez toujours vers quelque chose d'imparfait. Alors que quand vous prenez quelque chose de parfait, vous inclinez vers l'aspect analogique. C'est dans ce sens-là que l'analogie est qualitative et que le genre est matériel. Alors, une fois que vous avez compris que la division du genre se prend de l'extérieur et que la division de l'analogie se prend de l'intérieur, vous comprenez comment la dialectique qui repose sur la division et sur une division qui ne vient pas de l'intérieur, mais qui vient de l'extérieur, est toujours prise du côté matériel. C'est toujours par la division que vous comprenez ce qu'est l'analogie, et ce qu'est la dialectique, et ce qu'est le genre. La division est une opération d'intelligence extrêmement fondamentale, puisque nous la retrouvons dans la connaissance générique, dans la connaissance analogique, dans la connaissance dialectique. Mais comprenons bien que la dialectique implique certains aspects qualitatifs. Ce n'est pas une connaissance générique. Vous avez donc trois types de connaissances qu'il faut bien regarder. Et l'analogie s'oppose en premier lieu à la connaissance univoque. Parce que quand vous dites que c'est attribué dialectiquement, vous vous souvenez, il y a ce texte hein, pour la qualité, attribué dialectiquement. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites attribué dialectiquement? Attribué univoquement, attribué analogiquement, attribué dialectiquement. Oui, vous le retrouvez du côté de l'attribution. Et c'est peut-être la première manière pour connaître ce que c'est que la pensée dialectique. Qu'est-ce qu'on entend quand on dit l'attribution dialectique? Ceci est attribué dialectiquement. C'est-à-dire que c'est une attribution qui se comprend en fonction du processus dialectique. Le passage de la thèse dans l'antithèse qui donne la synthèse. Alors là, vous avez une attribution dialectique. Il y a un mouvement dans la dialectique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement dans la connaissance univoque. Il y a tout un mouvement. C'est un mouvement, le mouvement est un sensible commun. Ici, c'est un mouvement de l'intelligence, de la raison. Et c'est un mouvement qui va à la fois diviser et unir, séparer et unir. C'est ça le problème de la dialectique. C'est pas distinguer pour unir, mais c'est séparer pour unir. Vous opposez par la séparation pour unir dans la synthèse. Alors vous avez une pensée dialectique. Ça va être attribué dialectiquement. Vous avez joué ce rôle de diviser pour unir, pour dominer. Vous divisez pour dans la politique, la pensée dialectique revient tout le temps. Et vous divisez pour unir. Pour unir, c'est-à-dire pour dominer. Alors, en dernier lieu, comprenez que l'analogie est diverse. Analogie d'attribution, analogie de proportion, analogie de proportionnalité. Analogie de dénomination extrinsèque. C'est ce qu'Aristote appelle l'analogie pros-en et l'analogie de proportion. Donc déjà chez Aristote, il y a divers caractères d'analogie. Et alors les Arabes auront multiplié les analogies à Avicenne. Et saint Thomas a un langage beaucoup plus analogique qu'Aristote. C'est pas étonnant, il est en théologie. Or, en théologie, on a toujours un langage analogique. Parce que je n'ai pas de connaissance directe de Dieu. Donc j'ai toujours une connaissance par rapport, par référence. Donc c'est un langage analogique. Et d'analogie d'attribution qui se fonde sur l'analogie de proportion. Alors ça, c'est la petite parenthèse pour vous montrer que la qualité sensible fonde toutes mes connaissances analogiques. S'il n'y avait pas de qualité sensible, je ne sais pas de ce que deviendrait l'induction. Puisque s'il n'y a pas de qualité sensible, je ne sais pas ce que devient mon jugement d'existence. Alors si vous supprimez les qualités sensibles, voyez bien, jugement d'existence disparaît, le point de vue de l'induction disparaît, par le fait même vous êtes ramené uniquement à la connaissance univoque. C'est donc les qualités sensibles, et les sensibles propres, qui permet le sauvetage par rapport à la connaissance générique, univoque. C'est la libération de l'univocité, la connaissance des sensibles propres. C'est grâce aux sensibles propres que j'échappe à cette terrible univocité. Alors, maintenant, essayons de comprendre qu'est-ce que c'est que la qualité. Le tiesti, ou le poyenti, qu'est-ce que c'est que la qualité? Je pars du langage, toujours au plan philosophique. Je pars du langage. Habituez-vous à ça aujourd'hui. C'est très important. On part du langage. Le langage me montre qu'il y a des réalités qui sont qualifiées. On qualifie certaines réalités. L'homme est ça. Pierre est sage. Jean est un théologien. Qualifier quelqu'un, un ouvrier qualifié. Et ceci se fait par certaines attributions qui qualifient. Le propre de la qualité, c'est de qualifier. Hein, ça comprend tout de suite. Le propre de la qualité, c'est de qualifier. Il y a des choses qui ne qualifient pas. Quand vous dites « il pèse tant de kilos », ça ne qualifie pas du tout. Vous avez donc à côté de la qualité d'autres attributions. Quand vous dites « il est capable » de tuer son voisin. Est-ce que c'est une qualité? Dans certains cas, oui. C'est évident, si le voisin commence à vous piquer de piqûres mauvaises et nocives, vous avez le droit d'avoir une agressivité vis-à-vis de lui, et cette agressivité montre votre qualité. Si vous n'aviez pas cette agressivité, vous seriez un pauvre type qui subirait une injustice sans réagir. Mais la passivité n'est pas toujours une qualité. Et la réaction n'est pas toujours une qualité. La passivité absolue n'est une qualité qu'envers Dieu, qu'envers l'Esprit-Saint. Mais uniquement envers Dieu et l'Esprit-Saint. Là, on peut avoir une passivité absolue. Et l'action n'est pas toujours une qualité. Si vous n'arrivez pas à rester tranquille pour réfléchir et que vous êtes d'une agitation folle, on dirait qu'il est d'une agitation folle. Vous voyez, il y a des qualités nettes, il y a des qualités qui sont qualités en fonction du temps, du lieu, des circonstances. Ça, c'est net. Il y a le contraire des qualités qui peuvent être aussi des qualités. La qualité apparaît tout de suite comme impliquant des contrariétés. Tout de suite. Vous voyez, vous êtes courageux, et puis on pourrait dire, il est trop courageux. Vous êtes généreux, il est trop généreux. Il y a un palier sur lequel la qualité n'est plus qualité. Donc la qualité réclame une mesure. Hein ? Vous voyez bien ce que disait Hegel. La qualité implique une mesure. Il faudra essayer de comprendre, et vous le voyez dans le langage. Puisque vous dites, ah, Pierre, ce qu'il est généreux. Mais de temps en temps, il exagère. Alors il va y passer comme les autres. Ce qu'il est miséricordieux. Mais de temps en temps, il exagère. Il n'y a que Dieu qui peut être toujours miséricordieux. Nous ne pouvons pas être toujours miséricordieux. Quand nous sommes responsables de certaines choses, et que si la miséricorde allait jusqu'au bout, la miséricorde alors empêcherait de faire ce qu'on doit faire, le devoir d'État. On voit donc qu'il y a des limites, qu'il y a une mesure. Même la miséricorde implique une mesure par rapport à l'homme. Donc, on voit des qualités absolues et puis des qualités qui demandent d'être mesurées, ordonnées. Donc, ces qualités, vous voyez, qui demandent d'être mesurées, ordonnées, c'est en fonction du sujet. C'est pas en elle-même. La miséricorde n'implique aucune imperfection. Mais celui qui exerce la miséricorde, si de fait, en exerçant la miséricorde, il fait quelque chose qui est injuste, c'est pas bien. Et si vous prenez, voyez un pauvre type, hein, il manque complètement d'argent, vous êtes à côté de quelqu'un qui a son portefeuille bien garni, vous lui dites, oh bon, très bien, au bon moment, vous prenez les billets, vous les passez aux pauvres, vous êtes miséricordieux. Mais vous êtes miséricordieux sur le dos de quelqu'un. Alors si on est miséricordieux sur le dos de quelqu'un avec qui on est lié d'un contrat de justice, puisque vous devez respecter votre voisin et son portefeuille n'est pas le vôtre, à moins qu'il y ait un petit contrat, mais autrement son portefeuille n'est pas le vôtre, et donc vous le respectez. Alors à ce moment-là, votre trop grande générosité, et on dira, vous a aveuglé. Il est complètement aveuglé en fonction de sa trop grande miséricorde. Ça peut arriver, ça. Il ne faut pas condamner, mais on constate. Parce que c'est très difficile de dire jusqu'où doit aller la miséricorde. Et la mesure de la miséricorde est différente pour chacun d'entre nous. Et elle est différente selon les circonstances. Et quelqu'un qui a très peu de vitalité, il ne peut faire qu'une seule chose durant sa journée. Et si subitement, à cause de sa générosité, il veut faire autre chose, l'autre chose ne se fera plus. Quelqu'un d'autre peut très bien faire les deux. Oui, il y a une très grande souplesse dans les qualités et à la mesure. Ça, c'est très curieux. On verra le lien entre qualité et mesure. Ce qui est sûr, c'est que la qualité, du moins, que l'être humain et toutes les autres réalités peuvent être qualifiées. Dans le langage, on s'aperçoit que la qualification est très diverse. On s'aperçoit tout de suite des qualités qui regardent le corps et des qualités qui regardent l'âme. Alors on est tout de suite devant cette diversité à l'intérieur des qualités. Et à l'intérieur des qualités qui regardent l'âme, on verra tout de suite les qualités qui relèvent de la connaissance et celles qui relèvent du cœur. Et on aura la tentation d'opposer dialectiquement, voyez, l'attribution dialectiquement, d'opposer les qualités de l'intelligence et les qualités du cœur. C'est un lieu où la dialectique joue énormément. Connaissance, amour. Et puis, je vois des qualités qui regardent à la fois l'âme et le corps. La beauté. À la différence de la santé. Je ne dirais pas cet homme-là est en pleine santé. C'est prodigieux son intelligence. Il est en train de gémir. Et la santé regarde le corps, tandis que la beauté regarde les deux. La beauté, c'est à la fois quelque chose de sensible et c'est quelque chose de spirituel. Donc il y a des qualités qui touchent la personne, qui touchent l'unité des deux. Vous avez donc trois sortes de qualités. Et vous avez tout de suite aussi des qualités qu'on acquiert et des qualités qui sont données. Des qualités qui sont vraiment données au point de départ. Vous avez donc, c'est la première constatation que je vais chercher, qu'est-ce que c'est que la qualité? Je vois tout de suite, dans le langage, que c'est très divers. Constatation d'Aristote. Alors je pourrais me demander, petit problème intéressant, je ne le résous pas. Je pourrais me demander, au niveau du langage, si les divisions qu'Aristote donne des catégories sont exhaustives. Vous voyez, c'est un petit problème très intéressant, ça qu'on peut tous faire, et qui nous aide à comprendre les catégories d'Aristote. Comme lorsqu'il s'agit de la qualité, Aristote tout de suite donne une diversité très grande des qualités, nous l'avons vu. Pouvez-vous demander, vous, dans votre manière d'étudier le langage, de voir si, de fait, vous retrouvez les catégories d'Aristote. Ou si Aristote ne les a pas tous vues. Alors, si vous découvrez une qualité qui n'entre pas dans les catégories d'Aristote, vous viendrez me le dire. Ça m'intéresserait beaucoup. Parce que c'est intéressant, ça, c'est comme ça qu'on se familiarise avec les catégories d'Aristote. Vous avez le langage, essayez quand vous prenez n'importe quelle page de Sartre, ou de Hegel, ou une page d'Évangile, de voir tout ce qu'il y a comme qualité, relevez la diversité des qualités, notez-les, faites une petite analyse grammaticale, puis après vous réfléchissez les différents types de qualifications, et puis vous vous demandez si les qualités que donne Aristote sont adéquates à cela. Je crois qu'il faut tous faire ça pour comprendre les catégories d'Aristote. Alors faites-le inductivement. Hein. Ne partez pas d'Aristote et puis... Non, faites l'inverse. Analysez le langage. Une belle page d'un auteur que vous aimez. Puis essayez de réfléchir sur ces qualités-là. C'est une première démarche philosophique. Excellente. C'est à donner. C'est un donné. Et vous partez d'un donné. Et vous essayez de mettre un tout petit peu d'ordre dans ces diverses qualités. Ceci ne me dit pas encore ce que c'est que la qualité. C'est le langage. Le langage est un signe. Et je vois combien la qualité est tout le temps présente dans le langage. Il y a un style, et d'autant plus fort que la qualité est mieux employée. Ça aussi, c'est intéressant pour essayer de comprendre ce que c'est que la poésie. La mise en lumière de certaines qualités. Lisez un poème, et vous verrez tout de suite. Qu'est-ce que c'est que la qualité? L'interrogation du philosophe. Alors, je crois qu'on peut dire tout de suite que la qualité ennoblit. Il faudra savoir ce que ça veut dire. La qualité est une noblesse. Je crois que c'est un des aspects qui est tout à fait premier de la qualité, ça. Oui, la qualité qualifie. Qu'est-ce que c'est que d'être qualifié? C'est d'être ennobli. Ennobli dans le sens de votre nature. Si on vous met des ailes, est-ce que vous êtes ennobli? Non, c'est artificiel. Ah, vous voyez, tout de suite, l'opposition. La qualité n'est jamais quelque chose d'artificiel. La qualité ennoblit, elle vient s'ajouter. C'est vrai, elle vient s'ajouter, mais elle s'ajoute dans le sens de la nature. C'est le propre de la qualité, c'est de s'ajouter dans le sens de la nature, dans le sens de la nature de l'homme, dans le sens de la nature du cheval, dans le sens de la nature du chien. Et quand vous voulez faire du ridicule, vous mettez les plumes de paon sur la crinière du cheval ou sur les poils du chat. Et faites des choses ridicules. Vous voyez, à la place de qualifier, vous tombez dans le ridicule. Vous ajoutez quelque chose d'artificiel. Et ce quelque chose d'artificiel, alors, n'en oublie plus. Au contraire, vous fait tomber dans le ridicule. Ce qui existe de temps en temps dans certaines modes. Vous voyez, vous avez des plumes de paon sur la tête d'une belle dame. C'est un peu ridicule, madame. Ce paon qui est là, c'est pas vous, c'est tout à fait extrinsèque. Mais l'aspect artificiel, surtout quand il s'agit d'une vieille dame, oui, une plume de paon, quand elle était jeune. Mais elle est vieille. Et elle met ça pour, sans doute, paraître à calvitie. Elle aurait mis des plumes de paon. Voyez, le ridicule. Le ridicule montre bien que ce n'est pas la qualité. C'est quelque chose qui est tout à fait extrinsèque, tout à fait autre. Donc, ça ennoblit. Et ennoblir, c'est ennoblir dans le sens de la nature qui est qualifiée et qui demande d'être qualifiée dans le sens de sa nature, précisons, dans le sens de la finalité de sa nature. Alors nous allons peut-être par là toucher les deux aspects essentiels de la qualité. La qualité ennoblit, elle détermine. Tout ennoblissement implique une détermination. Elle détermine. Mais elle détermine d'une manière telle que cette détermination est dans le sens de la finalité de la nature et que cette détermination s'ajoute à la nature elle-même. Je crois que ce sont les deux conditions pour que la qualité existe. Réfléchissez là-dessus.